Ça va bien ce matin? Que vous avez bravé les petites conditions glissantes. C'était pas trop pire pour se rendre à l'église ce matin. Mais mon nom, c'est Dominique. Je suis un des pasteurs ici à l'église. Et je veux juste vous dire, je suis vraiment dans la joie de ce qu'on vient d'être témoin ce matin. C'est tellement beau de voir des personnes qui donnent leur vie à Jésus puis qui le témoignent à l'église, qui témoignent publiquement de leur amour pour Jésus, du fait qu'ils appartiennent à Jésus. Et vraiment, c'est ce qu'on veut prier dans les trois prochaines semaines avec Libération 21. C'est un rappel qu'on s'attend que Dieu continue à transformer des vies, que Dieu continue à travailler dans nos vies, que Dieu continue à faire de grandes choses autour de nous, en nous. Et pendant Libération 21, à chaque année, ce qu'on veut faire, c'est se rappeler cela. Par la prière, par des temps de jeûne. Quand on parle du jeûne, peut-être des jeûnes de nourriture, peut-être des jeûnes de quelque chose que tu veux ne pas faire ou consommer pendant Libération 21 dans le but de mettre du temps dans la prière, spécifiquement pour s'attendre à voir Dieu agir dans nos vies. Donc, c'est ce qu'on veut faire ensemble, c'est ce qu'on veut voir. Et il y aura quelques activités. D'ailleurs, on a eu la soirée de louange hier, une très belle soirée pour adorer notre Dieu ensemble. Et puis, le 12 avril, il va y avoir la journée de prière. Et on vous invite à mettre cet avant-midi, un samedi avant-midi de côté pour venir prier en église. Il va y avoir des temps pour prier seul, des temps pour prier ensemble. On a des stations de prière qui nous aident visuellement à pouvoir approcher Dieu de différentes façons dans la prière. Donc, on vous invite à venir. Et puis, la semaine passée, on vous a parlé des bracelets de Libération 21, un peu notre bracelet qui dit qu'on veut participer à Libération 21, mais aussi, à chaque fois qu'on voit ce bracelet, c'est un rappel à prier. Donc, un rappel qu'on peut prier n'importe où, n'importe quand dans la journée. Donc, il y aura des bracelets à l'arrière après la célébration. Cette année, la thématique de Libération 21, c'est épanoui. On a déjà commencé la série la semaine passée. Et un chrétien épanoui, c'est quelqu'un qui s'épanouit dans son identité en Jésus de plus en plus. Quelqu'un qui est transformé puis qui ressemble à Jésus de plus en plus. Et c'est ce qu'on veut voir ensemble, c'est ce qu'on veut considérer ensemble. Pendant Libération 21, une des pratiques qu'on veut que les groupes vont faire, que vous pouvez voir dans le guide du participant, c'est la pratique de la présence de Dieu. Être conscient que Jésus est avec nous à tout moment de la journée. Que ce soit dans mes temps que je vais prendre pour lire la parole de Dieu, pour prier avec Dieu. Mais Jésus est avec nous même quand, les parents écoutaient ça, même quand on fait la routine pour aller à l'école le matin. Ou à l'église. Dieu est avec nous même avant un examen, devant un projet au travail qui doit être remis ou une présentation qu'on doit faire. Dieu est avec nous dans les moments de calme comme dans les moments de difficulté où tout va vite ou les moments quand ça roule. Est-ce qu'on est conscient que Jésus est avec nous dans notre quotidien? Une question que j'aimerais qu'on puisse se poser ce matin, c'est est-ce que tu prends plaisir à être dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est, quand tu penses à ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi? Est-ce que tu es conscient que Jésus est présent dans ton quotidien? Peut-être que cette pensée est lourde pour toi, pour plusieurs raisons. Parce que entre le travail, les enfants, les tâches ménagères, ton couple, prendre plaisir en Dieu, faire de la place pour être dans la présence de Dieu, il me semble que c'est pas évident. Être avec Jésus peut sembler comme une tâche lourde qui demande beaucoup. Et peut-être que pour toi, en ce moment, ce matin, peut-être que pour toi, quand tu penses à ta relation avec Jésus, c'est plus des adjectifs comme insatisfaisant, inconstant ou incompétent qui te viennent en tête. Peut-être que Il y a des moments que c'est comme ça. Peut-être qu'il y a des moments où tu dis « wow, ça va bien » ou d'autres moments où tu dis « ah, je voudrais plus ». Mais c'est comme si tu évaluais ta performance avec Dieu, ta relation avec Dieu par ta performance à être conscient puis constant dans ta lecture, dans la prière, dans le temps que tu passes avec Dieu. Le chrétien épanoui grandit dans son identité à ressembler à Jésus de plus en plus. La semaine prochaine, avec Pierre-Étienne, on va voir comment ça se passe, comment on devient comme Jésus, comment est-ce qu'on est transformé à ressembler à Jésus de plus en plus. Mais cette semaine, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, j'aimerais que ça puisse être un encouragement pour nous à demeurer en Jésus, à prendre plaisir dans la présence de Jésus. Pas le voir comme quelque chose de lourd, de difficile, d'inconstant, mais quelque chose de grandiose, quelque chose de miraculeux, puis quelque chose de joyeux qui nous donne du plaisir, qui nous donne de la joie quand on considère tout ce que Jésus a fait pour nous. Parce que si on croit qu'un chrétien épanoui ressemble de plus en plus à Jésus, alors notre besoin et notre désir doit être de prendre conscience et de prendre plaisir dans la présence de Dieu au quotidien. On a besoin d'être avec Jésus, de passer du temps avec lui. Si on veut ressembler à Jésus, on a besoin d'être avec Jésus, de demeurer en Jésus. En réalité, on poursuit tous notre épanouissement dans quelque chose. L'être humain veut grandir. L'être humain veut être meilleur. Et l'être humain va se tourner vers une source, vers quelque chose dans laquelle il va croire qui va lui permettre de grandir et de s'améliorer. Et on le voit quand ça va mal. Quand ça va mal, dans quoi est-ce que tu demeures pour que ça aille mieux? Dans la présence de quoi ou de qui tu te retrouves pour que ça aille mieux? Quand tu penses à tes aspirations, à tes rêves, où est ta source de motivation? Dans la présence de quoi ou de qui te trouves-tu pour te motiver? Qu'est-ce qui va réellement donner un sens d'accomplissement, de joie, d'épanouissement? Que ce soit consciemment ou inconsciemment, on va toujours se poser ces questions-là. C'est ce genre de questions-là qui va guider nos vies. Et ce que j'aimerais qu'on puisse considérer ce matin, c'est que prendre plaisir dans la présence de Jésus, c'est reconnaître qu'il est la meilleure réponse à toutes ces questions-là. C'est reconnaître que c'est Jésus qui peut être ma source de motivation, ma source d'acceptation, d'accomplissement. Je peux me tourner vers lui, me trouver dans sa présence et être satisfait. Et on reconnaît que c'est pas toujours facile, pour toutes sortes de raisons. Mais c'est pour ça qu'on doit s'entraîner, se pratiquer à être conscient de la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est ce qu'on veut faire ensemble pendant Libération 21, pendant les 3 prochaines semaines. Dans le guide de Libération 21, il y a une explication de la pratique de la présence de Dieu. Si vous avez un guide, vous pouvez aller voir, vous allez en parler dans les groupes cette semaine. Mais il y a aussi sur le site internet, le guide est disponible et ce texte-là est disponible à la fin du guide. Mais pour ça, ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller voir un texte dans la Bible qui va nous montrer comment est-ce qu'on a accès à la présence de Dieu au quotidien. Quel privilège qu'on a et qu'est-ce que ça va produire en nous quand on est avec Jésus au quotidien. Quand on est dans la présence, dans la demeure de Jésus. En fait, on va regarder ensemble dans l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 15. Et je vais lire les 11 premiers versets. Et c'est Jésus qui parle. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Prenons un temps pour prier. Seigneur Jésus, on veut te remettre ce temps ensemble ce matin pour que tu puisses vraiment nous encourager, qu'on puisse être encouragé et être convaincu de toute l'œuvre que tu as fait en nous, de toute l'œuvre que tu veux faire en nous. Qu'on puisse être convaincu d'à quel point on a besoin de toi, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur, que ta parole puisse nous encourager, qu'elle puisse nous convaincre et qu'on puisse, Seigneur, être dans la joie en sortant d'ici ce matin, en sachant que tu es avec nous. Merci, Jésus. Amen. Donc ici, ce matin, on a cette image que Jésus va donner à ses disciples, l'image de la vigne. Il va dire, mon Père est le vigneron. La vigne, c'est la vie qu'on a avec Jésus. Donc Jésus va dire, je suis le cep, je suis le tronc. C'est moi qui est la source principale. C'est de moi que vient toute la vie de la vigne. Et vous, vous êtes les branches, les sarments. Et il va s'adresser comme ça, puis il va dire, il va parler avec eux de cette illustration-là. Et l'image de la vigne pour les disciples de Jésus, pour ceux qui entendent cette image-là à ce moment-là, c'est pas rien de nouveau. On peut voir que en Israël, à ce moment-là, des vignes, il y en a partout. Plusieurs personnes vont faire grandir eux-mêmes leurs propres vignes sur leur terrain. Il y avait des fermes, il y avait des gens qui avaient plusieurs vignes. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait pousser des vignes? Eh bien, on veut avoir des fruits. On veut des raisins, des bons raisins. On en veut beaucoup pour pouvoir les consommer, pour pouvoir faire du vin avec. Et qu'est-ce qui va faire la fierté d'un vigneron? Ben, ça va être la quantité et la qualité de ses fruits. Et pour les gens qui entendent ça, l'image, elle est claire. Et l'image, elle est encore plus forte parce que dans la culture d'Israël, l'image de la vigne était forte. Non seulement il y avait des vignes partout et les gens connaissaient la culture des vignes, mais en plus, dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est comparé à une vigne. Même dans le temple, il y avait une immense vigne dorée qui était probablement un symbole d'Israël dans toute sa gloire, dans toute sa force, dans toute sa splendeur. Et Israël, qui est une grande vigne qui porte beaucoup de fruits, parce qu'elle est le peuple de Dieu, parce que Dieu l'a choisi, parce qu'elle est le peuple choisi. Mais plusieurs de ces passages de l'Ancien Testament qui vont nous parler de la vigne nous montrent que Israël a échoué, que la vigne n'a pas porté de fruits, que la vigne était sèche, elle a été coupée, elle a été brûlée parce qu'elle n'a pas été fidèle à l'appel de Dieu dans sa vie. Mais là, Jésus vient et il va dire à ces personnes-là, c'est moi qui suis le cep. La source de votre vie, la source de votre salut, c'est moi. Vous n'avez pas à mettre votre confiance dans votre nation, dans vos convictions, dans vos croyances par rapport à qui vous êtes en tant que peuple. La source qui nous donne la vie abondante, c'est Jésus. Vous n'avez pas à mettre votre confiance dans autre chose, que ce soit vos idées de comment la vie fonctionne, que ce soit votre succès, que ce soit vos relations, peu importe, toutes, même des bonnes choses qui font partie de nos vies, mais qui bien souvent deviennent la source qui va nous donner de la joie, qui va nous donner de l'acceptation, qui va nous donner un sens de réussite, qui va nous donner notre, en fin de compte, notre accomplissement, notre épanouissement comme être humain. Rien de ça n'est égal à la vigne, au cep que Jésus lui-même va se nommer. Je suis le cep, celui qui donne la vie. Je suis la source qui donne une vie abondante, qui nous permet de nous attacher, qui vous permet de vous attacher à moi. La source qui donne la joie, c'est Jésus. Jésus nous invite à rester attachés à cette source. Et c'est vraiment intéressant parce que Jésus donne cette image-là à ses disciples alors qu'il est sur le point de les quitter. Dans quelques moments, Jésus va mourir sur la croix. Il va ressusciter et il va partir. Et ses disciples qui viennent de passer 3 ans avec lui, ils l'ont vu faire des miracles, guérir des malades. Ils l'ont vu faire des discours incroyables. Il y a des foules qui sont venues à lui. Eux-mêmes ont été capables de faire des miracles. Eux-mêmes, quand ils ont parlé du royaume de Dieu, quand ils ont parlé de Jésus, ils ont été témoins de grandes choses. Ils étaient avec Jésus au quotidien. Ils recevaient son enseignement, ils recevaient ses conseils, ils étaient pris soin par Jésus et en plus, ils étaient témoins de la grandeur de cet homme qui disait être le Fils de Dieu, qui disait être la vérité, qui disait être Dieu lui-même. Ils ont été témoins de toutes ses œuvres. Et là, il est sur le point de les quitter, de plus être avec eux. Et ce que Jésus va faire dans ses derniers moments, dans ses derniers temps qu'il va passer avec ses disciples, c'est leur rappeler qu'il va toujours être avec eux. Et ce que vous avez été capable de faire en ma présence, bien, inquiétez-vous pas, parce que quand je serai plus là, je vais quand même encore être avec vous. Vous allez pouvoir être avec moi. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va être en vous et la même connexion, la même relation qu'on a en ce moment, vous allez pouvoir l'avoir avec moi pour toujours. C'est ce que Jésus a voulu, même jusqu'à la fin, dans l'évangile de Matthieu. Les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, c'est « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce que Jésus désire, c'est d'être en relation avec nous. Ce que Jésus nous offre, c'est qu'on reste attaché à lui jour après jour pour pouvoir bénéficier de la vie qu'il a à nous donner, pour qu'il puisse nous enseigner, pour qu'il puisse nous donner de la force, pour qu'il puisse nous connecter avec lui pour qu'on puisse obéir à sa volonté. Demeurer en Jésus, c'est être en communion avec lui, afin que sa vie puisse agir en nous et à travers nous. Jésus leur promet qu'il va rester avec eux. Ils peuvent rester attachés à lui. Et j'aimerais ça qu'on puisse prendre quelques instants pour apprécier le contraste entre ce que Jésus est en train de dire ici, ce que Jésus est en train de faire, et la réalité du péché dans nos vies. Quand on va lire au début de la Bible, ce qu'on voit, c'est un monde qui est parfait, où Dieu est en relation parfaite avec les êtres humains, où les êtres humains sont en relation parfaite les uns avec les autres. Quand on considère les premiers chapitres, Genèse 1, Genèse 2, on voit un monde finalement qui est le rêve. Le rêve pour tous, c'est pas notre réalité, mais c'est un rêve. Hey, un monde où on se chicane jamais. Un monde où il n'y a rien de brisé, où il n'y a aucune confusion. Où Dieu nous parle, on entend clairement sa voix et on sait ce qu'il s'attend de nous. Ce monde parfait où les êtres humains sont attachés à Dieu, ils sont en relation avec Dieu. Mais ce qui a brisé tout ça, c'est que nous, les êtres humains, on a décidé. Et on le voit dans Genèse 3, c'est l'épisode de la chute où on a décidé de choisir à la place de Dieu ce qui était bon pour nous. En fait, quand dans Genèse 3, le serpent vient parler avec l'homme et la femme pour les inciter à prendre ce fruit que Dieu avait défendu. Dieu avait dit, le jour que vous allez manger du fruit de cet arbre, vous allez mourir. Est-ce que le serpent, en fait, c'était Satan qui est venu parler à Adam et Ève sous la forme d'un serpent, va leur dire, c'est, vous allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vous allez être comme Dieu et vous allez connaître le bien et le mal. En d'autres mots, si vous mangez de ce fruit-là, vous allez pouvoir décider à la place de Dieu ce qui est bien pour vous. Vous avez pas besoin de Dieu pour vivre. Vous avez pas besoin de Dieu pour vous épanouir. Faites ce que vous voulez. Ça ressemble plus à notre réalité, n'est-ce pas? Faites ce que vous voulez. Et c'est ce que les êtres humains ont fait. Et à partir du moment où ils ont mangé ce fruit, de ce moment jusqu'à aujourd'hui, on est séparés de Dieu. En fait, quand la Bible parle de péché, c'est cette notion, c'est cette séparation, séparés de Dieu. On ne fait plus la volonté de Dieu, on n'obéit plus à Dieu, on ne cherche plus Dieu, on est séparé de Dieu et on vit notre vie sans Dieu. Et la conséquence de ça, c'est qu'on va être séparé pour toujours, c'est la mort. Le fait qu'on a désobéi à Dieu, Dieu nous a donné cette conséquence qu'on va mourir et on va être séparé de Dieu pour toujours. Et depuis qu'on a fait ce choix, on est brisé. Nos relations sont brisées. Notre monde est brisé. On est en quête d'espoir. On court après quelqu'un ou quelque chose dans laquelle on peut s'attacher pour aller puiser notre force, pour aller puiser notre espoir. C'est ce qu'on fait comme les êtres humains. On a été créés comme ça. Et même quand on a rejeté Dieu, on s'est juste comme déconnecté de Dieu pour aller se connecter à quelque chose d'autre. La seule solution à ce monde brisé, c'est de se tourner vers Dieu. Mais comme la conséquence de ça, c'est la mort, c'est impossible. C'est impossible de nous retourner vers Dieu. À moins qu'un être humain parfait meure pour nous et paye la conséquence de notre séparation, paye la conséquence de notre rébellion contre Dieu. Et c'est peut-être une histoire que tu entends pour la première fois, c'est peut-être une histoire que tu entends pour la millième fois, mais c'est l'histoire qu'on a besoin de se rappeler pour considérer à quel point c'est miraculeux et grandiose le fait que Jésus ici est en train de faire exactement le contraire de la séparation. Il est en train de nous assurer qu'on peut s'attacher à lui pour toujours. On peut s'attacher à Jésus pour toujours et recevoir sa vie pour toujours. Non seulement il nous pardonne de nos fautes, mais il nous donne une relation avec lui. Il nous donne la vie. Jésus nous offre le pardon, mais il nous offre une proximité avec lui. Il nous offre sa présence. La présence de Jésus est passée de impossible à impossible, mais comme d'une manière où Jésus est en train de dire, j'ai tout fait pour que tu puisses avoir cette présence-là avec moi. Aller à Jésus, c'est pas quelque chose à faire. C'est pas quelque chose qui devrait être lourd pour nous. Parce que aller à Jésus, c'est pas quelque chose à faire, mais c'est d'être avec lui. Jésus n'est pas une chose à faire. Jésus, c'est une personne qui nous aime, qui nous a aimés et qui va nous aimer pour qu'on puisse l'aimer et aimer les autres en retour. C'est ce que Jésus fait en nous. Il est en train de nous transformer pour qu'on puisse l'aimer de plus en plus et aimer notre prochain de plus en plus, pour qu'on puisse vivre de plus en plus les réalités d'avant la chute. Peut-être que sur cette terre, on va toujours lutter avec le péché, on va toujours lutter avec le fait que le monde est brisé, mais Jésus nous donne une vie où on a une perspective plus grande, où aujourd'hui, on peut aimer notre prochain, où aujourd'hui, on peut aimer davantage et avoir la confiance qu'un jour, on va aimer totalement et on va être aimé complètement. Il n'y aura plus de brisure. Et le texte nous parle de Dieu qui est le vigneron. Et comme j'ai mentionné au début, le but du vigneron, c'est d'avoir beaucoup de fruits puis du bon fruit. Et c'est ça que Dieu veut. On peut lire au verset 7, ça dit, en fait, à partir du verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de prendre soin de sa vigne. Oui, ici, Jésus veut qu'on réfléchisse à notre relation avec lui. Si on considère qu'il est vraiment la source de notre vie, si on considère qu'il est vraiment celui qui est venu nous sauver, qui a donné sa vie pour nous. Jésus n'est pas en train de dire qu'on doit remettre en question notre salut à chaque jour, qu'on doit se remettre en question à chaque mauvaise pensée ou à chaque fois qu'on va faire une mauvaise action. Non, Jésus, ici, n'est pas en train de parler à des gens qui sont pas ses disciples. Parce que au verset 3, Jésus va dire, « Déjà, vous êtes peurs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes peurs à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. » Mais ici, il est en train de parler de cette illustration que ceux qui sont les disciples de Jésus, ceux qui se soumettent à Jésus, qui veulent obéir à Jésus, sont ceux qui s'attachent à Jésus. Et quand tu es attaché à Jésus, ce que ça va produire, c'est l'obéissance et du fruit. Et ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il prend soin de sa vigne. Il va couper le bois mort. Il va tailler les branches qui portent du fruit pour qu'elles portent encore plus de fruits. Et le fruit, c'est quoi le fruit dont il parle ici? Eh bien, c'est la vie de Jésus en nous. C'est ce que Jésus est en train d'accomplir. Le fruit dont il parle, c'est la reproduction de sa vie en nous. Jésus désire voir en nous le reflet de sa propre vie. C'est une vie d'obéissance à Dieu qui se manifeste par le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit qui est produit en nous, la vie de Dieu en nous. Dieu, le vigneron, prend soin de sa vigne pour qu'on puisse produire plus de fruits. Ceux qui sont attachés à la source, Jésus donne sa vie. Plus on est dans la présence de Dieu, plus on est attaché à Jésus, plus on ressemble à Jésus. Et ça, c'est la vie épanouie. C'est la promesse qu'il nous fait. C'est la promesse qu'il nous fait si on reste attaché à lui, si on passe du temps dans sa présence, si on s'attache à sa parole, si on cherche sa volonté, on va produire du fruit. On porte beaucoup de fruits. Aimer son prochain. Demander pardon. Être lent à la colère. Ne pas s'inquiéter de rien. lui faire confiance avec nos finances, être généreux, aimer ta femme, aimer ton mari. Toutes des fruits. Toutes des fruits, puis peut-être que tu te dis en ce moment, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours les fruits que je vais démontrer. Mais si Jésus est avec nous, il nous donne la force. Si Jésus est avec nous, il nous rappelle ce qu'il a fait pour nous. Il nous rend capable d'être et de faire ces choses-là. Si Jésus est avec nous, il nous rappelle à quel point il nous aime. Le passage nous dit même qu'il répond à nos prières. Il est avec nous. Quand je me suis marié, je voulais faire une surprise à ma femme, le jour de notre mariage. On s'est mariés ici même à l'église. Et pour moi, c'était bien important que quand on allait faire nos vœux, moi, je devais être sur ce côté-là. Mais je n'y avais pas dit pourquoi à la pratique du vendredi. Moi, je dois être ici. Puis elle allait être ici. La raison pour ça, c'est que la surprise que je voulais lui faire, c'est que je voulais chanter pour elle. Et puis, j'avais vu quelqu'un faire ça dans un mariage, ça m'avait inspiré. J'ai dit, un jour, je vais faire ça. Mais mon problème quand je chante, c'est pas tant que je suis pas capable de chanter, c'est que j'arrive jamais à embarquer à la bonne place. Moi aussi, je trouve ça drôle. J'arrive jamais. Comme quand on est ensemble, quand que Pierrot le fait pour nous, Luigi le fait pour nous, Alex, les Boniface, quand ils le font pour nous, ça c'est correct, je les suis. C'est pas grave si je t'arrive une demi-seconde en retard, il y a personne qui l'a entendu. Mais là, j'allais performer devant tout le monde, puis surtout devant ma femme, parce que moi, je m'étais dit, c'est pas grave qui est là, c'est pour elle, je le fais, c'est comme si on était toute seule, fait que je vais chanter. Mais j'étais pas capable d'embarquer. Puis là, je demande à un de mes amis, un jeune qui était à la jeunesse, qui jouait du piano, j'ai dit, est-ce que tu peux m'accompagner au piano? Est-ce que tu peux me coacher? Est-ce que tu peux m'aider? Fait que là, on a pratiqué ensemble, puis pour vrai, c'était bien beau, j'apprenais la chanson par cœur, j'avais l'air, tout allait bien, mais j'embarquais jamais à bonne place. Et puis, on a eu l'idée que quand j'allais chanter, fallait que je le voie jouer au piano. Puis lui, fallait qu'il chante avec moi. Puis moi, fallait que je chante avec lui. Fait que c'était un peu bizarre, parce que je regardais pas beaucoup ma femme quand je chantais. Mais au moins, ça fonctionnait. Tant et aussi longtemps que mes yeux étaient sur le pianiste, j'étais un chanteur hors pair. Tout fonctionnait. Tant et aussi longtemps que je le suivais, j'avais les capacités, j'avais la force, j'avais le courage, tout allait bien, puis j'étais capable d'aller jusqu'au bout de la chanson. Parce que j'avais mes yeux tournés sur celui qui savait comment ça marchait. J'avais mes yeux tournés sur celui qui pouvait m'aider à être meilleur. Et être dans la présence de Jésus au quotidien, c'est ça. C'est de garder nos yeux sur Jésus à tout moment. C'est pas de se dire, hey, je suis pas capable ou je suis capable ou j'en ai fait tellement cette semaine, là, je suis digne d'être dans la présence de Dieu ou je n'ai pas fait assez ou je suis pas digne. Non, c'est à chaque moment, c'est de se rappeler que Jésus est avec nous, qu'on peut garder nos yeux sur lui. Ce qu'on méritait, c'était la mort, la séparation, mais on se trouve dans sa présence et à tous les moments, je peux garder mes yeux fixés sur Jésus. Et il me donne la force, il me donne le courage, il me donne la capacité d'être lent à la colère, d'aimer mon prochain, de demander pardon, de parler de lui aux autres, de subir l'injustice en son nom, d'être rempli d'amour, de souffrir pour lui. On a besoin de garder nos yeux tournés vers lui. Et ce que Jésus nous dit, c'est ceci. Si je vous dis cela au verset 11, c'est afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Je vais inviter l'équipe de louanges à se joindre à moi. Afin que votre joie soit complète. C'est ce que Jésus veut faire. Si on reste avec lui, si on demeure attaché à lui, en étant attaché à lui, la vie qu'il produit en nous, c'est une joie qui dépasse les circonstances. C'est une joie qui va bien au-delà de nos déceptions, de nos difficultés. Parce que peu importe les circonstances, et je dis pas ça pour banaliser nos circonstances, mais peu importe les circonstances, la joie que Jésus nous donne vient du fait qu'il est, que nous demeurons en lui, que nous, qu'il est avec nous, que nous avons Jésus, que nous avons sa présence. Et ça, c'est vrai, peu importe les circonstances. Et quelle joie de pouvoir considérer qu'il y a de la joie, de la paix dans notre cœur alors qu'on est en train de souffrir, alors qu'on lutte avec un péché dans nos vies, alors qu'on se sent loin de Dieu puis qu'on se rappelle, hey non, Jésus, t'es drette là. Quelle joie de vivre cette joie-là qui ne dépend pas d'une bonne nouvelle. Ça dépend d'une bonne nouvelle, mais qui ne dépend pas d'une bonne nouvelle dans le moment présent. Quelle joie de savoir que Jésus nous aime, qu'il est avec nous, qu'il ne va jamais partir, qu'on peut rester attaché à lui puis que sa vie va couler en nous pour toujours. Et ce que j'aimerais qu'on prie ensemble pendant Libération 21, c'est qu'on soit de plus en plus conscient de la présence de Jésus dans nos vies, qu'on puisse apprécier sa présence dans nos vies, qu'on puisse être reconnaissant. Peut-être que pour toi, ça va être de mettre une alarme à une heure vraiment où tu ne penses jamais à Jésus, là, je ne sais pas moi, à 10 heures du matin, à 2 heures de l'après-midi. Puis là, ton alarme sonne puis tu dis, merci Seigneur pour ta vie, merci parce que tu es en moi, merci parce que tu m'aimes puis parce que tu es avec moi maintenant. Prenons conscience de sa présence au quotidien. Peut-être la prochaine fois que tu vas voir un enfant que tu essaies d'y mettre ses bottes, puis l'autre son manteau, puis que tu cours partout dans la maison, puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire pour souper parce que tu as oublié d'aller faire l'épicerie, tu vas t'arrêter, puis tu vas te mettre à rire, puis tu vas dire merci Seigneur parce que tu es avec moi en ce moment. Soyons conscients de sa présence dans nos vies parce que c'est là que notre croissance débute. C'est là que notre épanouissement va se produire. Et c'est la plus grande joie qu'on peut avoir de savoir que Jésus, notre Sauveur, est avec nous. Merci Jésus d'être avec nous. Merci pour ta joie. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et merci parce que tu nous prends là où on est et tu chemines avec nous et tu nous fais grandir. Sois glorifié, Seigneur. Amen.